Les deux hommes se tenaient debout côte à côte, nimbés de lumière. Chacun des murs était long de 10 mètres et haut de 3. Les caractères étaient petits et recouvraient toute la surface.
« La totalité du plan ne se trouve pas sur ces murs, » dit le premier orateur. « Pour cela, il faudrait réduire les équations individuelles à des dimensions microscopiques. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce que vous avez devant vous représente les grandes lignes du plan, jusqu'à l'époque présente. Vous les avez étudiées, n'est-ce pas ?»«
Oui, orateur. »
En reconnaissez-vous certains passages ?
Un long silence. L'étudiant pointa l'index, et dans le même instant, les rangées d'équations s'abaissèrent vers le bas du mur jusqu'au moment où la série de fonctions à laquelle il avait pensé. Il était difficile d'imaginer qu'un simple geste du doigt eût été suffisamment précis pour déclencher ce phénomène, se trouva à hauteur d'homme. Le premier orateur eut un rire discret.
Comme vous pouvez le constater, le premier radiant fonctionne en accord avec votre propre cerveau. Ce petit gadget vous réserve d'ailleurs bien d'autres surprises, vous verrez. Mais qu'alliez-vous dire à propos de l'équation que vous avez choisie ?
D'une voix défaillante, l'étudiant expliqua. Il s'agit d'une intégrale rigelienne représentant la distribution planétaire d'une tendance qui indique la présence de 2 classes économiques principales sur la planète. À moins qu'il ne s'agisse d'un secteur, plus une variable constituant un statut émotionnel instable.
Et cela signifie ?
Une tension limite, puisque nous avons ici... Il tendit le doigt, et de nouveau les équations se déplacèrent. Une série convergente.
Bien, dit le premier orateur. Et maintenant... Dites-moi ce que vous en pensez. Une véritable œuvre d'art, vous ne trouvez pas ? La perfection absolue ?
Tout à fait.
Faux ! Il n'en est rien !
S'écria aussitôt le premier orateur.
Voici la première leçon qu'il va vous falloir désapprendre. Le plan Seldon n'est ni achevé ni parfait. Il s'agit seulement du meilleur plan possible, compte tenu des connaissances de l'époque. Plus de 12 générations se sont penchées sur ces équations, les ont étudiées, disséquées jusqu'aux dernières décimales, pour ensuite les reconstituer. Mais tous ces gens-là ont fait bien mieux que cela, en fait. Pendant près de 400 ans, ils ont observé les faits. Ils ont passé les prédictions et les équations de Seldon à l'épreuve des faits, et ils ont tiré profit de cette expérience. Ils ont acquis bien plus de connaissances que Seldon n'en a jamais possédées. Avec la somme d'expériences accumulées au cours des siècles, nous pourrions reprendre l'œuvre de Seldon et obtenir de meilleurs résultats. Ceci est-il parfaitement clair pour vous ?
L'étudiant paraissait maintenant décontenancé.
Avant d'accéder à l'oratoria, continua le premier orateur, vous devrez apporter une contribution personnelle et originale au plan. N'y voyez aucun blasphème ? Vous voyez ces inscriptions en rouge ? Chacune d'elles représente la contribution de l'un d'entre nous. Elles sont toutes postérieures à Seldon. Attendez un peu. Voyons, voyons.
Il leva les yeux.
Là !
Les équations se mirent à tourbillonner tant et si bien que le mur tout entier parut venir à sa rencontre.
« Celle-ci, elle est de moi. »
Un fin trait rouge entourait 2 accolades, dans l'intervalle desquelles des déductions couvraient une surface d'environ 1 demi-mètre carré. Entre les deux, on remarquait une série d'équations en rouge.
« Cela n'a l'air de rien à première vue, » dit l'orateur. Les calculs concernent une étape du plan que nous n'atteindrons pas avant une période équivalente à celle qui s'est déjà écoulée. Il s'applique à une période de coalescence qui traversera le futur empire lorsqu'il se trouvera entre les mains de personnalités rivales qui risqueront de le mettre en pièces si la lutte s'avère par trop égale ou de le figer dans l'immobilisme si cette lutte se révèle trop inégale. Les deux éventualités sont envisagées dans le calcul, puis approfondies, et l'on indique les méthodes propres à éviter l'un et l'autre danger. Tout cela n'est cependant qu'une question de probabilité. Et une troisième solution peut apparaître. Le coefficient de probabilité en est relativement bas, 12,64% pour être précis, mais des événements encore moins probables se sont effectivement produits et le plan est encore loin d'être arrivé à son terme. Il s'en faut de 60%. Cette troisième éventualité réside en un compromis possible entre les personnalités rivales considérées, qui seront donc au moins deux, mais peut-être plus. J'ai démontré que cette solution figerait l'Empire dans un immobilisme stérile, et que d'autre part d'éventuelles guerres civiles seraient de nature à causer plus de dommages qu'une absence de compromis n'en aurait éventuellement entraîné. Fort heureusement, nous avons pu déterminer les mesures propres à prévenir cet enchaînement de circonstances, et c'est en cela que réside ma contribution personnelle.
Si je peux me permettre de vous interrompre, orateur, comment procède-t-on à un changement?
Par l'intermédiaire du radiant. Le moment venu, pour prendre votre exemple, vous constaterez que vos calculs seront rigoureusement vérifiés par 5 commissions différentes et que vous serez appelé à défendre vos résultats contre une attaque concertée et sans merci. 2 années s'écouleront, à la suite de quoi votre travail sera de nouveau soumis à étude. Il est arrivé plus d'une fois qu'un travail présentant toutes les apparences de la perfection ait révélé de graves erreurs après une période d'épreuve de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est souvent l'auteur en personne qui découvre la faille. Si, au bout de 2 ans, à la suite d'un nouvel examen non moins détaillé que le premier, il franchit victorieusement l'épreuve, et, mieux encore, si dans l'intervalle, le jeune savant a mis en lumière de nouveaux détails fournis des preuves accessoires, alors sa contribution sera intégrée dans le plan. C'est ce qui m'est arrivé. Ce fut l'apogée de ma carrière. Ce sera l'apogée de la vôtre. Le premier radiant est conçu pour s'accorder à votre propre cerveau, de sorte qu'il vous devient possible d'apporter des corrections, des ajouts au plan par un simple effort de votre volonté. Rien n'indiquera que la correction ou l'addition est de vous. Le plan n'est pas une affaire d'individus. Il en a toujours été ainsi. C'est une création collective. Comprenez-vous?
Oui, orateur.
Dans ce cas, nous en avons assez dit sur ce sujet.
Il lui suffit d'avancer d'un pas en direction du premier radiant pour que, de nouveau, les murs retrouvent leur apparence première. Seul l'éclairage ordinaire situé le long des murs, au ras du plafond, illuminait désormais la salle.
Voici mon bureau. Asseyez-vous et écoutez ce que j'ai à vous dire. Pour faire un bon psychohistorien, il suffit de maîtriser la biostatistique et l'électromathématique neurochimique. Certains ne savent rien d'autre et sont tout juste bons à faire des statisticiens. Mais un orateur doit être capable de commenter le plan sans avoir recours aux mathématiques. Sinon le plan, du moins sa philosophie, ses buts. Avant tout, quel est le but du plan? Dites-le-moi, avec vos mots à vous, et surtout ne cherchez pas à faire des phrases. On ne vous jugera pas sur la forme ni sur l'élégance de votre discours, croyez-moi.
C'était la première fois que l'étudiant avait l'occasion de proférer un mot de plus de 2 syllabes, et il hésitait avant de plonger tête baissée dans l'espace que l'on venait de dégager à son intention. Il résulte de ce que j'ai appris, dit-il timidement, que le but du plan est, je crois, d'établir une civilisation humaine basée sur des principes différents de tout ce qui a jamais existé jusqu'ici. Des principes qui, selon les découvertes de la psychohistoire, n'auraient jamais pu surgir spontanément.
Je vous arrête. Jamais est un mot à proscrire de votre vocabulaire, dit le premier orateur d'une voix insistante. Ce serait considérer les faits avec trop de désinvolture. En fait, les psychohistoriens n'établissent que des probabilités. Un événement particulier peut ne présenter qu'une probabilité infinitésimale, mais cette probabilité est toujours supérieure à zéro.
Oui, orateur.
Les principes en question, dirais-je donc, ne présentent qu'une probabilité extrêmement faible d'apparition spontanée.
C'est mieux. Et quels sont ces principes ?
Ceux d'une civilisation fondée sur les sciences psychiques. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est surtout dans le domaine de la technologie que les progrès les plus importants ont été enregistrés lorsqu'il était question d'agir sur le monde inanimé qui entourait l'homme. Le contrôle de soi et de la société a été abandonné au hasard ou au vague tâtonnement de systèmes éthiques essentiellement basés sur l'intuition, l'inspiration et l'émotion. Il en résulte qu'aucune culture dont le coefficient de stabilité excède environ 55% n'a jamais vu le jour, avec pour corollaire une affreuse détresse humaine.
Et comment se fait-il que les principes dont nous parlons ne soient pas d'un caractère spontané ?
Pour la raison qu'une minorité relativement grande de gens sont doués des facultés indispensables pour prendre part au développement des sciences physiques, et que tous bénéficient des avantages grossiers et visibles que ces sciences leur apportent. Mais seule une infime minorité possède les facultés indispensables pour conduire l'homme dans les arcanes supérieures des sciences psychiques. Et les bénéfices qui en découlent, s'ils sont plus durables, sont plus subtils et moins apparents. De plus, comme l'application de tels principes conduirait au développement d'une dictature éclairée au profit de ceux qui possèdent les meilleures aptitudes psychiques, c'est-à-dire des hommes occupant un échelon virtuellement supérieur dans les subdivisions humaines, ce fait susciterait des ressentiments et conduirait à l'instabilité de l'État faute de l'exercice d'une force coercitive qui réduirait le reste de l'humanité au niveau de la brute. Une telle issue répugne à nos sentiments et doit être évitée à tout prix.
Dans ce cas, quelle est la solution ?
La solution, c'est le plan Seldon. Toutes dispositions ont été prises et maintenues de telle sorte qu'après une période d'un millénaire, soit 600 ans à compter de l'instant présent, un empire galactique sera instauré, au sein duquel l'humanité sera prête pour l'avènement du règne des sciences psychiques. Dans le même intervalle, le développement de la seconde fondation aura permis de préparer un groupe de psychologues à devenir les futurs dirigeants de cet empire. Ou, comme je l'ai souvent pensé, la première fondation fournira l'infrastructure physique d'une collectivité politique unique. Et la seconde fondation, l'infrastructure mentale d'une classe dirigeante déjà toute préparée à sa tâche.
Je vois. Très pertinent. Pensez-vous que n'importe quel empire qui pourrait se trouver formé au cours de la période prévue par Seldon conviendrait à la réalisation de son plan ?
Non, orateur, je ne le pense pas. La possibilité existe que plusieurs empires puissent être formés au cours de la période de 900 à 1700 ans succédant à l'instauration du plan. Mais un seul d'entre eux est le véritable empire.
Le second empire dont nous attendons l'avènement. Cela étant, pourquoi est-il nécessaire que l'existence de la seconde fondation soit tenue secrète, notamment et surtout vis-à-vis de la première fondation ? L'étudiant s'efforça de déterminer s'il pouvait s'agir d'une question piège. Mais, faute d'y parvenir, il répondit non sans hésiter,
pour la même raison que les détails du plan en général doivent être dissimulés à l'ensemble de l'humanité. Les lois de la psychohistoire sont par nature statistiques et deviennent parfaitement inopérantes si la conduite des individus n'est plus le fait du hasard. Si une collectivité relativement importante venait à connaître les détails clés du plan, leurs actions s'en trouveraient profondément influencées.
échappant ainsi à la loi des grands nombres qui préside aux axiomes de la psychohistoire. En d'autres termes, elles échapperaient désormais au calcul des probabilités. Vous me pardonnerez, orateur, mais j'ai l'impression que cette réponse n'est pas satisfaisante.
À la bonne heure. Vous avez raison, en effet. Elle est même tout à fait incomplète. C'est la seconde fondation elle-même qu'il convient de dissimuler aux yeux du monde et non pas simplement le plan. Le Second Empire n'est pas encore formé. Notre société telle qu'elle se présente encore actuellement s'accommoderait fort mal que la classe dirigeante fût constituée de psychologues. Elle en redouterait le développement et la combattrait par tous les moyens. Comprenez-vous cela ?
Oui, orateur. Ce point n'a jamais été souligné,
n'exagérons rien. Il n'a jamais été souligné en classe, certes. Mais vous auriez pu faire le raisonnement vous-même, vous ne croyez pas ? Nous préciserons ce point et bien d'autres dans un proche avenir, au cours de votre apprentissage. Nous nous reverrons dans une semaine. Vous voudrez bien alors me faire part de vos réflexions sur un problème que je vais maintenant vous poser. Je ne vous demande pas un traitement rigoureux et mathématique, ce qui demanderait au moins une année de travail pour un expert et pour vous, pas loin d'une semaine. Non, je voudrais simplement que vous me donniez une idée de l'orientation générale, des tendances que vous aurez observées. Vous trouverez ici une bifurcation dans le plan concernant une période qui remonte à une centaine d'années. Les détails nécessaires sont inclus. Vous noterez que la voie empruntée par la réalité diverge en tout point des prédictions établies par le calcul. Sa probabilité n'atteignait même pas 1%. Vous évaluerez le temps pendant lequel peut se poursuivre la divergence avant de devenir irréversible. Évaluez également l'issue probable en cas d'irréversibilité et proposez pendant que vous y êtes une méthode raisonnable susceptible d'être utilisée pour opérer le redressement.
L'étudiant manipula au hasard la visionneuse et regarda d'un air glacial les passages qui se présentaient sur le minuscule écran incorporé. Pourquoi avoir choisi ce problème en particulier, orateur ? Visiblement, il ne s'agit pas d'un simple cas d'école.
Merci, mon garçon. Vous avez fort bien réagi. Je n'en attendais pas moins de vous. Non. Ce n'est pas un problème gratuit. Il y aura bientôt un demi-siècle, le mulet a fait irruption dans l'histoire, et pendant les 10 années qui ont suivi, il est devenu le centre de l'univers. Son arrivée était totalement imprévisible, il n'entrait pas dans les calculs. Son incidence sur le plan fut sérieuse, mais non point fatale. Mais, pour mettre un terme à ses activités avant que ne fût atteint le seuil critique, nous avons néanmoins été contraints d'intervenir activement contre lui. Nous avons alors révélé notre existence et, ce qui est infiniment pis, dévoilé une partie de notre pouvoir. La première fondation est à présent avertie de notre existence, et ses actions en sont influencées en conséquence. Remarquez les incidences sur le problème, ici et ici. Naturellement, vous ne soufflerez mot à quiconque de la confidence que je viens de vous faire.
Suivit un silence consterné tandis que les répercussions de cette phrase pénétraient l'entendement de l'étudiant. Alors, le plan Seldon a échoué, dit-il.
Pas encore. Il se pourrait, je dis bien, il se pourrait qu'il ait échoué. Les probabilités de succès se chiffrent encore à 21,4% selon la plus récente estimation.